focus. Une immersion dans l'univers de la création.
Bonjour à tous, nous sommes dans Focus, nous rencontrons l'écrivain Johanna Nobili, bonjour.
Bonjour.
Donc on a de la chance, on est dans ton jardin presque, au pied des aiguilles de Chabrière.
Voilà.
Dans un coin merveilleux. Tu es dans le feu de la publication du dernier numéro de Carnet d'aventure, dont tu es la rédactrice en chef.
Oui, c'est ça.
On va parler d'une autre de tes casquettes. Tu as franchi le pas, tu es devenu écrivain.
Si on peut dire.
Et tu as fait un livre qui s'appelle La légèreté du parapente. Et quoi de mieux pour parler de légèreté que de citer Saint-Exupéry dans La Terre des Hommes qui dit que se débarrasser du superflu permet de garder l'essentiel.
Oui, c'est ça. Saint-Exupéry, oui, qui disait que la perfection était atteinte non pas quand il n'y avait plus rien à ajouter, mais quand il n'y avait plus rien à retrancher. J'aime bien cette image de s'approcher de la légèreté.
Il n'y a pas mieux que le parapente avec un bout de tissu et des quelques ficelles.
C'est fou, c'est magique.
Pour s'approcher, surtout que maintenant, les parapentes vont jusqu'à devenir des petits poids de 1 kg.
Oui, oui, c'est vrai qu'il y a eu un tel progrès dans les 10-15 dernières années. Certaines voiles pèsent 1 kg et font 5 litres de volume. C'est le volume même pas d'un ballon de foot. Enfin, c'est fou, quoi.
Donc, tu peux l'emporter jusqu'en Himalaya. On en parlera en deuxième partie.
Ouais.
Puisque maintenant, on survole l'Himalaya en parapente.
C'est fou.
Le parapente, c'est un prisme de découverte. C'est ce que tu dis dans ton livre. Je ne peux pas m'empêcher de citer tes propres mots qui sont pleins de poésie. Tu ouvres tes poumons et tu humes la respiration de la planète. Tu ouvres tes oreilles et tu écoutes le murmure du monde. Et tu ouvres ton corps et tu ressens le souffle de l'univers. C'est beau. C'est vraiment ce qui se passe quand tu es en l'air.
Eh bien, écoute, oui, moi, je trouve que quand on est en l'air, qu'on prête attention, en fait, à son environnement, on ressent tout un tas de choses, et avec tous nos sens. Je trouve ça chouette de se dire qu'est-ce que, là, je suis en train de sentir, de voir, d'entendre, de ressentir.
Il y a aussi ce monde que tu qualifies d'invisible, hein, qui l'est réellement, c'est-à-dire ce monde des thermiques qui te permettent de rester en l'air, de ne pas chuter et d'arriver à voyager. Donc tu dis qu'il faut apprendre à
lire le ciel.
À lire le ciel.
Ouais.
Comment est-ce qu'on fait pour apprendre à lire le ciel?
Eh ben, alors il y a plein de choses. Déjà, on s'appuie sur l'expérience des autres, les enseignements des autres. Il y a plein d'ouvrages pour ça. Et puis je crois que l'expérience fait qu'on, petit à petit, à force d'observer ce qu'il y a autour de nous, d'observer les oiseaux hein, aussi, et puis même, j'allais dire, même les jours où je vole pas, j'ai toujours un œil sur le ciel, et puis ça permet de, petit à petit, d'apprendre, de voir comment les choses fonctionnent.
Oui, c'est vrai. J'avais interviewé Stéphanie Baudet, là, qui a fait le livre qui est...
À la verticale de soi.
À la verticale de soi, ouais. Qui est une alpiniste. Et elle disait qu'il y avait la dictature du beau temps.
Oui.
C'est-à-dire qu'elle-même priait pour qu'il n'y ait pas beau temps, que ce soit mauvais temps, pour qu'elle n'ait pas à aller faire de l'escalade.
Certains jours où elle avait accumulé beaucoup, beaucoup de journées d'escalade de montagne, effectivement, elle se disait, mais bon, vu que demain, il ne fasse pas beau, et qu'on puisse se reposer...
Et c'est vrai que dans le milieu du parapente, on est toujours en train de regarder si on va voler ou pas.
Oui, on regarde beaucoup les prévisions météo, parce qu'on a la chance de nos jours d'avoir des prévisions précises. Mais alors c'est très très bien. Et puis parfois l'inconvénient, c'est qu'on a 12 000 sites météo ouverts sur l'ordinateur et qu'on passe beaucoup de temps à les regarder, les étudier, les comparer. Et puis parfois pour décider de ne pas aller voler.
Oui, c'est un peu une école de frustration aussi.
Il faut savoir jongler avec ça. Le parapente, c'est une activité qui dépend énormément des conditions, mais un petit peu comme des activités de neige, de montagne, comme des activités de mer aussi, qui ont besoin de vent ou qui ont besoin de vagues. Du coup, on est vraiment, on va dire, on dépend vraiment de ce que veut bien nous donner la nature. Et c'est vrai que parfois, l'humain a un peu tendance à vouloir la dominer, la dompter, cette nature, mais elle reste quand même la maîtresse et on ne peut pas... On ne peut pas faire arriver du vent, de la neige, des vagues si la nature ne l'a pas décidé. Donc effectivement, il y a des frustrations, mais c'est aussi une bonne occasion d'apprendre à les gérer et puis à composer avec ce que la nature nous donne.
Tout à l'heure, on parlait des rapaces. Donc
oui.
On peut voler facilement avec les rapaces.
Ben ça, c'est une chance incroyable hein, de pouvoir voir ces oiseaux de si près. Eux, comme nous, on est en l'air dans le ciel et puis ils peuvent battre des ailes pour pouvoir
rester en l'air. Ouais.
Nous, on ne peut pas, on n'a pas de moteur. Mais du coup, on a tous besoin, de si on veut rester en l'air, enfin en tout cas pour eux sans effort, de trouver des ascendances. Et du coup, on se retrouve ensemble à partager en fait, des moments qu'on ne pourrait pas partager d'une autre manière. Donc, c'est vraiment une position privilégiée qu'offre le parapente pour ça, oui.
Ce qui m'a étonné, puisque j'en ai croisé, il y en a beaucoup à côté de Pont du Fossé, proche du Palastre, de Soleil-Bœuf, du Querelle. Ce qui m'a étonné, c'est qu'ils ne sont pas agressifs du tout. Ils viennent et ils nous entourent, presque avec compassion, de voir qu'on a plus de mal qu'eux à tourner.
On a tous les mêmes besoins. Ouais, c'est vraiment, je trouve que c'est un des aspects assez magiques de l'activité. C'est peut-être pas celui auquel on pense en premier, mais c'est en tout cas vraiment quelque chose qu'on vit, ce contact avec une autre espèce. On se retrouve avec des enjeux communs et à partager quelque chose, quoi. C'est chouette.
Et spécialement dans les Hautes-Alpes, hein, parce qu'on voit facilement des vautours.
On a de la chance pour ça.
Même des gypaètes. Enfin,
oui, des aigles. Ouais, on a vraiment de la chance.
Alors, on parle de cette dimension interespèce. Tu parlais dans ton livre du jet qui pouvait être une sentinelle.
Oui. Bah parce que, en fait, c'est...
Sentinelle de la forêt.
C'est ça, bah c'est cette communication inter-espèce. Et par exemple, le jet, donc le jet des chênes, hein, qui est un corps vidé, il prévient, en fait, les autres usagers de la forêt, les autres animaux. Quand il sent l'approche d'un danger, il fait une sorte de cri un petit peu particulier que les autres espèces ont appris
à reconnaître.
Et c'est vraiment... il est surnommé sentinelle de la forêt pour ça. On voit aussi avec des chocards, avec d'autres oiseaux. Ouais.
On pourrait l'adapter à notre milieu parapente avec un parapentiste qui ferait la sentinelle pour nous prévenir d'un danger. Ce serait pas mal. Alors, on ne peut pas passer sous silence le risque qu'il y a à voler, hein, parce qu'on a beau s'adapter assez facilement, quand même un milieu hostile. Et tu parles d'homéostasie du risque.
C'est vrai déjà ce que tu disais, hein, le parapente, même si on fait ce qu'on peut pour se former, pour pratiquer de manière la plus sécuritaire possible dans nos limites, ça reste une activité qui comporte une part de risque non négligeable, comme d'autres activités de pleine nature. Et bah oui, alors j'évoque dans le livre l'homéostasie du risque. Alors c'est pas moi qui suis à l'origine de cette notion, hein, pas du tout. Elle a été déjà mise en avant et développée par pas mal de personnes. En fait, l'idée, c'est de dire un petit peu que chaque personne, on a un rapport au risque qui est un petit peu différent, chacun de nous, et que finalement, on a une espèce de risque, de niveau de risque acceptable et qui est propre à chacun, hein, qui dépend un petit peu de moments de notre vie, de notre humeur, etc. Mais que, en fait, ce niveau de risque acceptable, il varie pas forcément beaucoup, et que si on ajoute des paramètres qui permettent de le réduire d'un certain côté, eh ben, on risque, nous, de se donner plus de latitude pour, du coup, finalement, augmenter le risque objectif pour parvenir à ce que notre niveau de risque moyen soit toujours le même. Un exemple qui est donné, parce que c'est un peu abstrait comme ça, c'est de dire, ben, par exemple, en Norvège, il y a eu des formations pour des conducteurs de camions. Donc, on leur a appris à faire de la conduite sur neige, parce qu'un des dangers, là-bas, il y a beaucoup de neige et il y avait beaucoup d'accidents. Et donc, les camionneurs ont été vraiment formés. Ils conduisaient vraiment beaucoup mieux sur la neige. Donc, on s'est dit, bah, super, ils conduisent, ils sont formés, ils connaissent les techniques, il va y avoir moins d'accidents. Et en fait, on s'est rendu compte que, bah, du coup, comme ils étaient formés et qu'ils maîtrisaient mieux, ils roulaient plus vite.
Ouais, voilà.
Donc, en fait,
c'est l'effet pervers.
Voilà, le niveau d'accident était toujours le même, mais ça s'était décalé sur... Voilà.
Oui, c'est un peu l'adaptation forcenée de l'humain qui lui fera piétiner les règles de sécurité qu'il vient à peine d'ériger.
Ça, je crois qu'on ne refera pas l'humain. L'humain est tel qu'il est. Bah, c'est un sujet important. C'est la même chose dans plein d'autres sports, hein, que ce soit les sports de montagne, l'alpinisme, tout un tas de sports qui comportent quand même un risque aussi.
Il y a un risque de base, si on peut dire, auquel toi et moi avons été confrontés. C'est tout bêtement de se faire happer par un nuage. Donc, tu en parles dans ton livre.
Oui. En parapente, on fait ce qu'on appelle du vol à vue. On n'a pas, on n'est pas tenu de voler avec des instruments, on doit voler à vue, c'est-à-dire qu'on doit voir notre environnement. Et donc, on doit voir ce qu'il y a autour de nous, c'est-à-dire qu'on ne doit pas rentrer dans un nuage, parce qu'une fois qu'on est dans un nuage, on ne voit plus rien, c'est tout gris, tout blanc. Donc, on ne doit pas le faire. Mais parfois, quand on fait quelques erreurs, hein, sûrement avant, ou quelques choix qu'on aurait pu faire autrement, on se retrouve à l'intérieur d'un nuage. Et ben là, voilà, une fois qu'on est dedans, il faut agir. Et effectivement, là, la perception est complètement différente. Hein. Beaucoup de pilotes qui sont rentrés dans des nuages disent un peu la même chose. On perd complètement ses repères. C'est vraiment déroutant. On, On peut avoir l'impression d'aller de tourner alors qu'on va droit. Enfin, les perceptions de notre corps sont complètement perturbées.
On peut se fier à un instrument qui est basé sur le GPS,
oui.
qui nous donne la direction dans laquelle on va. Donc on peut éventuellement, par rapport à quand on est rentré dans le nuage, imaginer vers où on va.
Heureusement qu'on a ça, une boussole, un GPS, pour nous aider. Mais ça, c'est là qu'on constate souvent hein, que ce que notre corps ressent, et c'est souvent pas du tout ce que les instruments nous montrent.
Il y a une autre notion, c'est la théorie du FOMO. Donc c'est en anglais, ça veut dire fear of missing out.
Oui,
donc cette théorie
peur de rater.
La peur de rater quelque chose.
Ouais. Ouais. Alors oui, on parlait tout à l'heure du fait que le parapente était une activité qui dépendait pas mal des conditions météo. Quand on veut faire du vol de distance, on a besoin de conditions particulières. Mmh. Et parfois, les prévisions météo nous indiquent la journée est fantastique. Alors, on pose sa journée de congé, on prévient potentiellement son époux, son épouse, ses enfants, qu'on rentrera tard, tout ça, tout ça. Et puis, en fait, une fois qu'on est en l'air, la journée est pas forcément celle qui était annoncée. Finalement, on pensait voler jusqu'à 20h, on est posé à 14h, on est frustré. Là, on regarde à nouveau la météo pour le lendemain, on se dit « mais non, finalement, c'est demain la super journée. De nouveau, il faut poser le congé, mais on n'en a peut-être plus. » Enfin, ça se complique et puis on en arrive à cette peur de rater la super journée. Et, bah, de toujours se rappeler que, je le dis aussi et surtout pour moi, hein, parce qu'on est tous confrontés à ça, de se rappeler que voler, c'est déjà une chance immense, c'est déjà quelque chose de magique. Et que même un vol qui dure que 10 minutes, alors un jour où on espérait voler des heures, ça reste quelque chose de magique que beaucoup de gens dans le monde aimeraient faire et n'ont pas l'opportunité. Donc.
On va faire une petite pause musicale avec un morceau de First Aid Kit qui s'appelle My Silver Lining, c'est ça ?
C'est ça.
Et en deuxième partie, on parlera des vols bivouac, notamment celui d'Antoine Girard, et d'harmonie intérieure.
But I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, no, I gotta go. There's no starting over, no beginnings. Time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. Just keep on keeping on. I hear a voice calling out for me. These shackles I made in an attempt to be free. Being free, being for love. I won't take the easy road. Ooh, 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 ooh. Oh. Comes with the bad. It's always never just sad. There's hope. There's a silver line. Show me my silver line. Show me my silver line. I hear a voice calling out for me. These shackles I made in the town to be free. Being free. Being free.
Rebonjour, amis auditeurs, nous sommes toujours avec Johanna Nobili. On va parler du vol bivouac. Quelque chose d'extraordinaire, c'est ce qui vient d'arriver là récemment à Antoine Girard. Il a réussi avec son bout de tissu et ses ficelles à survoler l'Himalaya, les plus hautes montagnes du monde, à monter jusqu'à 8400 mètres.
Oui, oui, c'est vrai que ça paraît complètement vertigineux. Alors déjà, peut-être rappeler ce que c'est que le vol bivouac.
Oui.
Le vol bivouac en parapente, eh ben c'est une activité que personnellement je trouve assez magique, qui consiste à alterner de la marche et du vol. Donc en fait, on part avec sur le dos un sac avec contenant tout son matériel et de vol et de marche, enfin de marche on l'a au pire, et de bivouac, ce qui fait qu'on peut partir des jours, des semaines, voire plus, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir alterner marche et vol. Et on progresse comme ça, les moments où il y a des bonnes conditions, et ben, on avance en vol. Et puis quand on ne peut pas voler ou qu'on doit de nouveau marcher jusqu'à un lieu propice pour le décollage, on marche.
C'est ce que fait aussi Luc Armand, qui a fait également la traversée de toute la chaîne himalayenne.
Oui, alors il y a quelques pilotes comme Luc Armand, comme Jean-Yves Frédériksen, comme Antoine Girard et comme Philippe Naudet aussi à l'époque et comme d'autres, qui sont allés faire des vols bivouac dans l'Himalaya, ce qui prend tout de suite une autre dimension,
c'est
puisque magique, les montagnes sont hautes et qu'ils se retrouvent à décoller à des altitudes supérieures à celles du Mont Blanc. Donc tout de suite, l'échelle est différente. Et puis c'est vrai que les rencontres sont différentes aussi avec les populations là-bas. Toute l'échelle est complètement autre.
Luc Armand parle de la notion d'homme oiseau. Il dit même qu'il se repose au décollage tellement ça lui fait plaisir que les gens viennent tout de suite le voir.
On parlait tout à l'heure de la rencontre avec les oiseaux, mais avant ça, il y a la rencontre avec les autres humains, ceux qui ne volent pas. Et que ce soit dans nos contrées, quand on atterrit comme ça au bord d'une route, où, souvent les gens sont curieux, sont intéressés de venir poser des questions. Mais en général, dans nos contrées, les gens ont quand même déjà vu un parapente, alors qu'au fin fond du Pakistan, ils arrivent par le ciel et les locaux les regardent comme s'ils étaient des demi-dieux. Et les personnes sont vraiment complètement enthousiastes et curieuses. Et c'est vrai que c'est un partage qui doit être incroyable.
Ouais. Antoine Girard, dans son film, il montre les Afghans, je crois, ou les Pakistanais, qui arrivent avec des fusils. Lui, il prend peur.
Oui.
Mais en réalité, il venait juste l'accueillir. Et ils ont le fusil parce que c'est comme
parce
ça là-bas.
C'est comme ça, mais c'est sûr que c'est pas très rassurant.
Alors, ça nous amène à Didier Fabre, qui est quelqu'un d'emblématique avec un livre, Le Vagabond des airs, où il parle de trouver l'harmonie intérieure, que c'est grâce à cette harmonie qu'il peut continuer à voler.
Oui, alors Didier Fabre, c'est un des pionniers, voire on pourrait presque, certains le qualifient comme l'inventeur du vol bivouac. Alors lui, il volait avec un deltaplane. C'est pas tout à fait pareil qu'un parapente, mais les enjeux sont les mêmes. Hein. Didier Fabre a lancé ce concept d'alterner vol et bivouac. En plus, lui, le delta, c'était moins facile à transporter qu'un parapente.
Ça pèse un âne mort.
C'était fou, ouais. Il faisait deux allers-retours, des fois deux ou trois allers-retours pour monter tout son matériel en plusieurs parties dans des pentes en montagne pour pouvoir aller décoller. Et il a aussi traversé les Alpes comme ça. Et effectivement, il explique dans cet ouvrage mythique qu'est Le Vagabond des airs comment tout ça a donné un sens à sa vie et effectivement comment il trouve une harmonie intérieure avec tout le reste de la nature auprès de laquelle il trouve un contact rapproché en fait quand il est en l'air et quand il est en vol bivouac.
Ça nous amène à toi-même qui as réussi à tutoyer les 5000 mètres au-dessus du massif des Écrins. Donc tu démarres ton bouquin et tu finis ton bouquin avec ce vol.
C'est vrai que déjà les vols au-dessus des montagnes du massif des Écrins me marquent et me touchent particulièrement parce que je trouve ça magnifique, incroyable. Et puis on a la chance dans les Hautes-Alpes d'avoir un peu tout un tas de milieux et de passer presque des portes de la Provence à des montagnes à 4000, donc c'est chouette. Et c'est vrai qu'aller survoler ces montagnes et ces glaciers, c'est quelque chose d'incroyable. Et voilà, on a la chance, certains étés, d'avoir des conditions propices où les ascendances thermiques nous emmènent au-dessus des sommets des montagnes. Et en effet, l'été 2020, on a eu beaucoup de chance. J'étais pas la seule, on était nombreux à profiter de ces belles conditions qui nous ont monté à plus de 5000 mètres d'altitude. ce qui est...
C'est 1000 mètres au-dessus du relief.
C'est ça qui est fou, voilà, le plus haut sommet, c'est la barre des écrins, elle est à 4103 mètres, et on était 1000 mètres au-dessus, c'est complètement fou d'avoir... Enfin, c'est ça aussi qu'offre le parapente, c'est un autre regard, un autre point de vue.
Et tu, dans ton livre, tu parles de choses incroyables, comme tu salues des alpinistes en haut des écrins. Quand tu t'en vas, toi, tu en as pour quelques heures.
C'est ça.
Et eux, ils seront encore pendant des journées entières pour redescendre.
T'es passé vraiment tout près du sommet de la Meije et je vois une cordée qui arrive au sommet et on se fait un signe. Ça fait juste 2 ou 3 heures que je suis en l'air et puis dans une heure, je serai en bas... à fêter ça en trinquant avec des amis alors qu'eux sont partis sûrement à 4h du matin et ils en ont encore pour des heures et des heures et des heures à redescendre. C'est quand même fou ce que ces morceaux de tissu et de ficelle du parapente permettent quand même, quoi.
Tu parles de hold-up d'ailleurs. Il faudra essayer de rendre ce qu'on a piqué, tout cet effort qu'on n'a pas fait. Il faudra le rendre à ces braves gens
alpinistes.
Ouais.
Alors après, j'aime aussi beaucoup pratiquer ce qu'on appelle le vol randonnée. Hein, c'est de monter à pied au sommet d'une montagne et d'utiliser le parapente juste pour descendre. Bon, là, c'est une super chouette activité aussi hein, et qui permet un double regard sur les choses parce que c'est vrai que quand on monte à pied, on peut se focaliser sur des choses très proches, regarder une marmotte, regarder un bosquet de fleurs, regarder chaque caillou du sentier. Et puis une fois qu'on est en l'air, on a cet autre point de vue sur la nature.
Il y a une phrase aussi qui est en exergue dans ton livre, c'est « tenter de repousser l'horizon permet d'en ouvrir de nouveaux sans fin ». Tu l'as ressenti quand tu étais dans des vols longue distance ?
Ma petite échelle, hein, mais c'est cette impression que au début on commence à visiter sa vallée, puis à un moment on passe dans une autre vallée, puis parfois une autre, et puis parfois on change de chaîne de montagne, on passe des Alpes du Sud aux Alpes du Nord, et puis à un moment on se dit mais où est-ce que je pourrais aller comme ça ? Et parfois les limites qu'on croit être des limites n'en sont pas, il y a qu'à voir, on parlait d'Antoine Girard qui à l'époque où j'ai écrit mon livre avait réussi à monter jusqu'à 8100 et quelques mètres,
ouais,
et
le,
là
le Brodbeek, ouais.
Voilà, et récemment il est retourné au Pakistan et des ascendances thermiques l'ont amené jusqu'à plus de 8400 mètres. Donc finalement, où sont les limites ? On peut se poser la question, et c'est chouette hein, de se dire que l'humain a cette chance et ces possibilités d'essayer d'aller toujours plus loin.
Dans ton livre, on a l'impression d'une quête de liberté, d'une éloge de la liberté. Qu'est-ce qu'au bout de 10 ans de parapente, tu aurais comme nouveau désir, comme nouvelle impulsion ?
Alors déjà, de toujours savoir continuer, on évoquait tout à l'heure la magie de voler, quel que soit le vol, même s'il dure que quelques minutes, déjà de savoir conserver ça, de jamais se lasser en fait, parce que je crois qu'à chaque décollage, cette sensation au moment où l'aile nous soulève délicatement, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Donc déjà garder ça, et puis c'est vrai que j'ai un petit faible quand même pour le vol bivouac, parce que je trouve que pouvoir donc faire de nouveaux vols bivouac, je trouve ça magique de poursuivre l'aventure au-delà d'une journée, de ne pas rentrer chez soi le soir, et puis le bivouac, c'est aussi rester au contact de la nature pendant la nuit et poursuivre
rester
l'aventure.
En montagne, voilà, et redécoller le matin,
c'est ça.
Au lever du soleil. Ouais.
Voilà, c'est quelque chose que je trouve magique.
Bon, mais c'est sur cette magie qu'on va conclure notre émission. Donc, merci Johanna d'avoir fait tienne les mots de Jonathan Livingston Le Goéland. Il connut qu'il n'était pas pluméos, mais idée parfaite du vol et de la liberté, mais que rien ne pouvait l'imiter.
Et oui, c'est ça, cette espèce d'osmose avec le milieu en quête de liberté. Ouais.
Focus. Une immersion dans l'univers de la création.